France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Mattet.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés. Vous le savez, comme tous les samedis, place aux correspondants de la presse étrangère en France. Au menu ce soir, la marche blanche pour Matisse, tué le week-end dernier à Châteauroux. Et les risques de la récupération politique, existe-t-il une réelle montée de la violence chez les jeunes ou en parle-t-on simplement plus? Nous regarderons aussi la situation dans les pays de nos invités. Le Premier ministre Gabriel Attal qui entre dans la campagne des européennes, un peu contre son gré. Est-ce une stratégie payante pour la majorité? Le parti Renaissance peut-il combler son retard dans les sondages et enfin intéresser les lecteurs maintenant à un mois du scrutin? La campagne des européennes marquée aussi en Allemagne par cette agression d'un eurodéputé et d'un militant, nous y reviendrons. Et puis les négociations en Égypte pour une trêve au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, alors que se poursuivent les mobilisations étudiantes pour Gaza en France, aux États-Unis, mais pas seulement, également dans d'autres pays. Pour analyser, débattre, commenter tous ces sujets, Ayşe Gülsert, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste américano-turc, enseignante à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Vibeke Knupprachlin est aussi avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante à Paris pour la presse norvégienne. À vos côtés, Alberto Toscano. Bonsoir Alberto.
Bonsoir.
Écrivain journaliste italien basé bien sûr à Paris. Et Paul Ackermann, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondant suisse en France pour Le Quotidien. Le temps, c'est parti pour une heure de débat. 8000 personnes dans les rues de Châteauroux cet après-midi pour cette marche blanche en hommage à Matisse, 15 ans, tué à coups de couteau samedi dernier par un autre jeune. Sa famille avait tenu à organiser cet événement elle-même pour éviter toute récupération politique, alors que des militants identitaires ont hier soir déployé des banderoles devant la mairie, dont une où il était écrit « Français, réveille-toi ». Cet après-midi, tout s'est déroulé dans le calme. Le maire de Châteauroux, Gilles Avrous, sur France Info ce soir, parle d'émotion, mais aussi de la volonté de ne pas éluder les questions après la mort de Matisse en ce qui concerne notamment la violence.
C'est l'occasion de dire aux parents de parler avec leurs adolescents, d'évoquer le sujet, évoquer la question de la violence, comment faire pour y remédier, le sujet des armes. Vous avez vu l'étude qui était rendue ces derniers jours et qui disait que la première cause d'homicide en France venait des armes blanches. Voilà, il y a tous ces sujets. Donc
l'éducation, le papa de Matisse en parlait. Parents, surveillez vos enfants, a-t-il dit.
Oui. Alors bien sûr, les enfants ne sont pas toujours coupables et ne doivent pas être montrés du doigt parce qu'ils sont enfants ou adolescents. Mais il faut parler de ces sujets-là. Quand on vit un drame comme ça, il faut vraiment en discuter pour faire tout ce qui est possible pour que ça ne se reproduise pas. C'est la volonté des parents, mais c'est la volonté de tout un chacun.
Le maire de Châteauroux ce soir sur France Info avec Catherine Potier. Ces dernières semaines, ces derniers mois, des jeunes parfois encore au collège sont morts sous le coup d'autres mineurs, ce qui a relancé sur le débat sur la violence chez les jeunes, avec des mesures, un couvre-feu dans certaines villes, des annonces du gouvernement pour plus de sévérité. Ayşe Gülsert, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus d'actes violents qu'auparavant, ou des actes plus violents, ou tout simplement, comme disent certains spécialistes, qu'on en parle plus?
Je regardais les archives un petit peu sur les marches blanches qu'il y a eu dans les presses francophones. Et déjà en 95-96, on parlait en Belgique, par exemple, d'une marche blanche à cause un fait divers de nature tragique. Donc, c'est vrai que malheureusement, on en a entendu à nouveau. Moi, je suis en France depuis un peu plus de 5 ans. En 2018, il y a eu le cas d'une octogénaire juive à Paris qui avait été tué, donc il y a eu une marche blanche. En 2022,
on parle de violence des jeunes envers les jeunes.
Tout à fait, mais ça fait partie, les raisons pour lesquelles il y a ces marches blanches, entre guillemets, c'est afin de canaliser cette colère, de canaliser cette émotion collective et de montrer qu'on ne répond pas à la violence avec de la violence, mais au contraire avec quelque chose du faire ensemble. Et j'ai l'impression que ça persiste. En termes de la violence, en France, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que j'ai l'impression qu'on continue depuis des années, même si on dit qu'il y a de plus en plus de violence. Moi, je pense que c'est plutôt les réseaux sociaux, le fait que maintenant, on voit beaucoup plus des images, des vidéos sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est accumulé. Mais je me pose la question de si c'est vraiment, vraiment énormément de différences qu'il y a 10 ans.
On peut dire un mot, Paul Ackermann, de cette émotion. Aujourd'hui, on a vu des milliers de personnes, 8000 personnes dans une ville moyenne comme Châteauroux. Il y avait une vraie unité autour de ce drame.
C'est sûr que chaque
Chacun de ces drames provoque énormément d'émotions. Et puis là, on sort d'une séquence de, je sais pas exactement, 3 semaines où il y en avait pratiquement un tous les 2 jours. Et je pense que c'est ça qui donne cette impression d'urgence, qu'il faut absolument réagir. Et le gouvernement a réagi aussi parce que c'est, on va dire, comment dire, que ça correspondait à ce qu'il avait entrevu dans les émeutes de l'été passé. Donc les réponses qu'ils ont données à cette vague de violence sont à peu près les mêmes que ceux qu'ils avaient prévu de donner suite aux émeutes. Après, est-ce qu'il y a une vague de drames ces dernières semaines? Je crois que c'est indéniable. Est-ce que sur plusieurs années, on peut démontrer par les chiffres? Moi, j'ai cherché et j'ai pas réussi. Jérôme Fourquet, donc le politologue qui a un peu susurré ce concept de décivilisation à l'oreille de Macron, dit lui-même que c'est très compliqué. Alors, dans son livre La France d'après, qui est un peu à la base de toute cette réflexion. Il le démontre par les agressions de policiers qui auraient augmenté, par les voitures brûlées, des choses comme ça. Mais lui non plus ne trouve pas le chiffre de meurtres entre ados qui auraient augmenté de manière spectaculaire ces dernières années.
Vibeke Knopf-Rachlin, on a le sentiment qu'en tout cas, on a vu le gouvernement afficher sa sévérité par la voix de Gabriel Attal notamment. Voilà, il fallait réagir pour le gouvernement avec cette fermeté.
Bien sûr, c'est obligatoire parce que l'opinion est très frappée de ce qui se passe. Et puis, je crois qu'on peut dire que, effectivement, je crois que les statistiques montrent froidement qu'il n'y a pas plus de ce genre de malheureusement faits divers qu'avant. Mais là, il y a toute une série et c'est vrai que c'est très frappant et très inquiétant. Donc, il fallait absolument que le gouvernement réagisse, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils le font de la bonne manière? Ça, c'est une autre question.
On posera la question à Alberto Toscano dans un instant.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Avec cette marche blanche aujourd'hui à Châteauroux, en hommage à Mathis, ce jeune de 15 ans, tué par un autre jeune le week-end dernier, tué à coups de couteau, on évoquait la réponse de fermeté du gouvernement. Est-ce que c'est la bonne réponse, Alberto Toscano?
La bonne réponse est de réfléchir. La signification de la marche blanche est justement un moment de réflexion pour la société tout entière. Je me souviens très bien de la marche blanche en Belgique après l'affaire Dutroux. Ces fillettes martyrisées. En Italie, il y a eu une affaire monstrueuse, presque de la même nature. 2 fillettes qui ont été violées par 15 personnes en août 2023. Et c'est là que le gouvernement a décidé de nouvelles mesures, apparemment très dures, même contre les mineurs qui sont coupables de ce genre de
monstruosité. C'est le plan anti-baby gang de Giorgia Meloni.
Exactement. Alors là, il y a une discussion aujourd'hui en Italie, si ces nouvelles mesures ont marché ou non. Sans doute, aujourd'hui, l'Italie a un numéro élevé par rapport à son histoire de mineurs dans des prisons spéciales pour mineurs, évidemment. Plus de 500 aujourd'hui en Italie. En même temps.
Mais si on prend l'Italie, par exemple, Alberto Toscano, Giorgia Meloni, elle a proposé quoi? Un peu plus de policiers, un peu plus aussi d'éducation, notamment par le sport. Ça peut être des solutions, ça, qu'on peut transposer en France?
Ça peut être des solutions. Il y a aussi des mesures contre les parents, à charge des parents, des mineurs qui font des actes de cette nature. Et d'ailleurs, de coupables, présumés coupables, de cette violence contre les 2 fillettes près de Naples, sont des fils de chefs de la mafia locale, la Camorra. Mais la question est aussi de s'interroger sur le fait que ces crimes ne sont pas des faits divers, sont des affaires de société. Il y a une société tout dans son ensemble qui doit réfléchir.
Vous vouliez aussi réagir?
Oui, parce qu'il y a un autre pays, c'est pas le mien, mais on est voisins, c'est la Suède, où on parle maintenant de conditions ou de situations suédoises qui est absolument à éviter. C'est le pays en Europe où il y a le plus de morts par balle, par an, par balle. Donc, c'est quand même incroyable. On s'imagine que la Suède, comme la Norvège, ce sont des pays tranquilles. Eh ben non, pas du tout. C'est complètement gangréné par des gangs. Et
avec quelle réponse là-bas des autorités?
Ben, ils essayent, mais ils ont beaucoup de mal. Hein. On sait que, qu'on le veuille ou non, là-bas, c'est un peu une conséquence d'un certain laxisme avec les immigrations.
Des meurtres par balles. Oui. Aïcha Gülsert, vous êtes américano-turc aux États-Unis. Cela va beaucoup plus loin qu'en France, hein, bien sûr, avec souvent des jeunes mineurs. On parlait de la violence des jeunes qui se tuent entre eux et par arme à feu.
Oui, tout à fait. Mais c'est très intéressant parce que... Il y a deux études qui ont été faites en 2023 aux États-Unis. On a vu que 13% à peu près des homicides aux États-Unis. On a eu moins de 13% que d'habitude d'homicides. Et la raison pour laquelle, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ils ont mis des polices de proximité, en un sens, qui n'ont pas d'armes et qui font qu'il y a une sorte de sécurité qui est autour, par exemple, dans Detroit, où ça a très bien marché. Mais en même temps, il y a une hausse de mass shootings.
De tuerie de masse.
Dans les églises, dans les écoles, qui continue aux États-Unis. Donc, on n'a pas encore trouvé la solution, malheureusement, on a pu diminuer, entre guillemets, les crimes, mais on n'a pas par couteau ou autre, mais on n'arrive pas encore à baisser tout ce qui est par armes.
Et on parlait de réflexion entière de la société en Italie ou en France. Est-ce qu'aux États-Unis, vous avez le sentiment que cette réflexion se mène?
Oui, et ça continue depuis des décennies. C'est-à-dire que, par exemple, Barack Obama, il a essayé de passer après les fusillades qu'il y a eu dans les écoles, qui a fait ce que M. Toscano parlait, qui a pris très vivement dans le cœur le sentiment que les Américains devaient changer quelque chose. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'appelle le droit de porter un arme et donc qu'ils n'arrivent pas à franchir. Donc la réflexion est là, le désir de changer est là, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est quand même un pays où on dit que les libertés, plus ou moins, permettent tout et où il y a les républicains qui bloquent tout désir de changement.
Il y a des lobbies puissants également sur les armes. Paul Ackermann, on parlait de la Norvège, on parlait de la Suède, pays réputé assez tranquille. On peut penser à la Suisse, où pourtant la criminalisation chez les jeunes est assez en hausse aussi.
Alors, en hausse, je pense que peut-être qu'on part de loin, mais enfin, il y a pas, je pense pas qu'on puisse dire, et c'est aussi une question de chiffres, il y a beaucoup moins de monde, il y a aussi une économie qui se porte beaucoup mieux, mais en tout cas, on n'a pas du tout cette impression qu'on peut avoir ces dernières semaines en France avec un meurtre tous les deux jours entre des jeunes, donc non, je pense qu'en Suisse, c'est quand même beaucoup plus calme. Et comme je disais avant, l'économie est peut-être la réponse. Chez Macron, c'est toujours la réponse. C'est par le travail qu'on va résoudre tous les problèmes. En tout cas, en Suisse, le fait qu'il y ait peut-être moins, on va dire, de misère, de chômage, etc., fait qu'on a quand même moins ce genre de problème.
Alberto Toscano, un dernier mot sur cette réflexion de la société sur ces violences, notamment chez les jeunes.
Cette réflexion est aussi une réflexion sur l'intégration des jeunes. Parce que parfois, certains moments de tension, qui ne sont pas liés directement à l'immigration, mais quand même, on sent que, notamment dans certains quartiers difficiles, dans des situations difficiles, il faut faire plus pour faire en sorte qu'il y ait une atmosphère de compréhension, de dialogue, et si nécessaire aussi d'intégration, entre les jeunes, les fils des Français de toute origine. Et des Italiens de toute origine. C'est un discours difficile à réaliser, mais fondamental pour garantir un avenir vraiment de cordialité, d'amitié, de développement à nos sociétés.
C'est le fameux vivre ensemble qui n'a pas marché à Châteauroux parce que Matisse, on le sait, il a traité son futur meurtrier de fils de Bin Laden. Donc l'autre a vu rouge et... l'a tué pour ça.
Ce qui n'excuse rien pour autant. Notre deuxième sujet, dans un instant, on parlera des Européennes et de Gabriel Attal qui se lance dans la campagne.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Et notre deuxième sujet ce soir dans les informés concerne les européennes du 9 juin et la stratégie de la majorité présidentielle du parti Renaissance qui dévoile ses candidats avant son programme. Ce sera lundi. Valérie est tête de liste, largement devancée dans les sondages par Jordan Bardella, a déjà reçu le soutien d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui demande maintenant à son Premier ministre d'entrer dans la bataille. Gabriel Attal, assez réticent jusque-là, va donc devoir s'investir dans ce combat. déplacement ce samedi à Agen pour le chef de gouvernement qui a vanté dans l'après-midi l'Europe des solutions. Paul Ackermann, quand Gabriel Attal est arrivé à Matignon en janvier, tout le monde s'est dit c'est l'arme anti-Bardella avant les européennes, et puis finalement le Premier ministre est resté assez discret dans cette campagne. Cela vous semble normal qu'Emmanuel Macron lui demande aujourd'hui de s'investir, d'y aller enfin ?
Oui, alors je sais pas, personne ne sait sûrement quel était vraiment leur accord à ce niveau-là au départ. C'est vrai qu'il a, en tout cas dans la pratique, ça a été beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on pouvait penser. En même temps, on le comprend, parce que c'est pour Attal qui déjà, dont la popularité baisse déjà beaucoup, dont on voit qu'il est vraiment sur le front régulièrement sur d'autres questions. C'est très risqué de lier son image, notamment en vue des prochaines élections, à cette liste qui va quand même droit dans le mur, on peut dire, parce que enfin là maintenant on en est à se demander si le Parti socialiste va passer devant, ce qui est quand même
avec Valérie Ayé effectivement qui baisse dans les sondages et Raphaël Glucksmann.
Alors bon,
la
pauvre Valérie Ayé, ils ont mis une tête de liste que personne ne connaissait, donc pour elle c'est quand même compliqué d'exister face à des Bardella, des Glucksmann qui sont quand même un peu des people, quoi. Et donc non, c'est
autant Raphaël Glucksmann que vous le qualifiez de people.
Ah, bah lui plus que Bardella. Bardella c'est un politique professionnel. Glucksmann c'est un intellectuel, voilà, qu'on a entendu pour beaucoup d'autres choses que de la politique ou de la politique socialiste en tout cas.
Chez Gulsert, il y a, vous pensez, oui, cette réflexion peut-être personnelle de Gabriel Attal qui s'est dit si je ne m'investis pas trop, peut-être que je ne serai pas responsable de la défaite, voire de la débâcle annoncée par les sondages pour ces européennes.
C'est possible, et moi ce qui, entre guillemets, m'amuse dans ce gouvernement, j'ai l'impression que le nom de Gabriel Attal est devenu comme le mot passe-partout, vous voyez, qui va apporter tous les miracles. On a besoin d'un ministre d'éducation, Gabriel. On a besoin d'un nouveau Premier ministre, Gabriel. On a besoin de gagner plus de points aux Européens pour le 9 juin. Gabriel. Et donc, j'ai l'impression
la cage,
que...
Gabriel.
Oui, et ce qui, voilà. Mais ce qui est très logique, parce qu'on a vu que quand même, Gabriel Attal, quand même, le premier ministre français qui est le plus jeune de l'histoire du 5e République, qui quand même si c'est vrai que sa popularité est en déclin, bah, la popularité d'Emmanuel Macron est en déclin également, mais ça reste un animal politique sur qui, moi, personnellement, je miserais pour... il est présidentiel. On a confiance en lui. Il y a quelque chose de communication.
Ah, vous voyez,
il est
déjà
jeune.
Le coup d'après, pour
mais
vous,
bien
c'est...
Sûr, mais bien sûr. C'est, si à 34, 35 ans, vous êtes premier ministre, je pense que vous allez pas vous arrêter là, la course va continuer. Donc je pense que afin d'apporter un petit peu de vivacité, d'espoir dans ces élections européennes que les Français snobent un petit peu parce que voilà, ils ont entre guillemets d'autres chats à fouetter, c'est essayer de donner un petit peu de souffle, et ce que Paul disait très justement, au moins le nom de Gabriel Attal, on le connaît. Le nom de la première liste, Valérie, on la connaît pas, on la voit pas. Et le Rassemblement national est à quoi, 18 points d'avance sur Renaissance.
Ouais, à peu près entre 15 et, ouais, et 16 points. Alberto Toscano, est-ce que l'archange Gabriel, pour reprendre votre bon mot, peut créer une dynamique justement dans cette campagne difficile de Valérie?
Non, mais la question de la campagne, la question du 9 juin n'est pas une question de petits jeux tactiques, n'est pas la question de qui a les yeux plus beaux que l'autre. Hein, ou qui parle mieux que l'autre. C'est une question de fond, c'est une question politique. C'est le fait
on connaît
que...
pas les programmes pour l'instant. C'est vrai qu'on est un mois, mais ce sera dévoilé que lundi.
C'est le fait que ces élections en France, d'ailleurs, comme en Allemagne, comme en Italie, comme en Espagne, sont des élections de mi-terme. Sont des élections où les gouvernements en place doivent mettre leur popularité en jeu. Et en particulier, ça vaut pour Emmanuel Macron? Pas pour le gouvernement, pas pour Gabriel Attal, pour Emmanuel Macron, qui a été élu dans un second tour un peu particulier, deux fois contre Marine Le Pen, et qui, dans le cas de la deuxième élection, n'a pas eu le réconfort de la majorité.
Gabriel Attal, est-ce qu'il ne peut pas dire Emmanuel Macron, regardez, c'est pas ma défaite, c'est celle de mon Premier ministre.
Pardon, je termine. Qui n'a pas eu, dans le cas de sa réélection, le réconfort de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et qui paye aujourd'hui Emmanuel Macron, pas Gabriel Attal. Le fait de ne pas de gouverner, d'exercer le pouvoir sans avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est là que ces élections ont une portée politique fondamentale pour la politique intérieure française. Mais ça regarde Emmanuel Macron, pas Gabriel Attal.
Vibeke Knupfrachtine, je vous pose la question à vous, parce qu'Alberto Toscano ne voulait pas me répondre. Voilà, est-ce que ça ne l'arrange pas aussi, Emmanuel Macron, d'y envoyer finalement son Premier ministre à
Mais
sa place ?
Évidemment. Alors, je rajouterai un autre nom encore. Le couteau suisse. Gabriel Attal, c'est le couteau suisse d'Emmanuel Macron. Il peut servir à tout. Et il va effectivement...
Et le fusible aussi.
Voilà, le fusible.
Il va moi, peut-être. Je suis d'accord, comme voilà. Ça vaut comme
voilà.
Ça.
Voilà, bien sûr.
Mais quand même, il ne faut pas peut-être le sous-estimer parce que, d'accord, il baisse dans les sondages, mais il garde la confiance des Français. 57%, c'est beaucoup plus que Bardella. Donc, il a aussi une image un peu plus, beaucoup plus que Bardella, d'homme d'État, quelqu'un à qui se fier, qui a plus de charisme, etc. Donc, ça va être effectivement une sorte de match. Et les Français adorent ça. Et ils vont se masser devant la télévision le jour du duel.
Au-delà de tel ou tel candidat, Paul Ackermann, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui que ces élections européennes intéressent les Français, les autres aussi dans les autres pays? On a l'impression que le Rassemblement national parle de la France insoumise de Gaza, la majorité de l'Ukraine. Personne ne joue sur le même tableau. C'est assez confus pour les électeurs.
Oui, c'est vrai que... Et puis, le camp d'Emmanuel Macron mise tout sur l'Ukraine. D'ailleurs, quand vous dites qu'il envoie un peu Gabriel Attal au front, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas s'être engagé. On l'a dit avec ce discours de la Sorbonne, etc. Enfin, il est en campagne 100%, lui. Mais par contre, est-ce que l'Ukraine est la priorité des Français, le sujet qui valait le plus et c'est un vrai sujet européen pour le coup, mais je pense pas. Et en fait, qu'est-ce qui va intéresser les Français à cette élection? C'est plutôt des questions de personnes. C'est est-ce que Glucksmann sur Gaza, etc. Et voilà, c'est ce que les Insoumis essayent de faire avec pas mal de succès ces derniers jours, faut dire, de mettre cette question au centre de la table et tout le monde ne parle que de ça. Mais c'est des questions un peu de personnes, si on veut.
Et il reste un mois avant ces européennes du 9 juin, le programme du Parti Renaissance qui sera connu lundi. Les informés reviennent dans un instant, la seconde partie, après la météo et l'info. À tout de suite.
20h, 21h, les informés, Victor Mattet.
Nos informés qui sont toujours là dans le studio de France Info, Ayşe Gülsert, journaliste américano-turque, enseignante à l'école de journalisme de Sciences Po à Paris, Vibeke Knupfrachtine, correspondante à Paris pour la presse norvégienne, Alberto Toscano, écrivain, journaliste italien à Paris, et Paul Ackermann, correspondant suisse en France pour le quotidien Le Temps. Nous évoquions dans la première partie des informés les européennes du 9 juin à propos de ces élections, cette agression hier soir en Allemagne d'un euro député social-démocrate à Dresde, c'est dans l'est du pays. Il était en train de poser des affiches pour le parti d'Olaf Scholz. Un militant écologiste a également été frappé, le chancelier, qui estime que la démocratie est menacée par ce genre d'actes. D'autres agressions d'élus ont d'ailleurs eu lieu ces derniers mois, dernières semaines en Allemagne, inquiétant à quelques semaines des européennes. Je vous pose la question, Ayşe Gülsert, dans un pays qui est normalement épargné par ce genre de violence, qu'il était en tout cas ces dernières années.
Je pense que personne n'est épargné. Aucun pays, aucune démocratie n'est épargnée. C'est-à-dire que même en France, on a vu cette semaine, par exemple, avec les violences quand même contre Raphaël Glucksmann, même aujourd'hui, contre Éric Zemmour.
Éric Zemmour, effectivement, voilà, en déplacement Corse, en Corse, ouais, qui voilà, a répliqué.
Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est je pense qu'il y a une hausse de la violence peut-être contre les politiques, mais je pense que il y a plutôt une baisse de confiance envers les politiques. Et malheureusement, cette baisse de confiance s'exprime...
Une baisse de confiance qui pourrait se traduire dans les urnes, par exemple.
Absolument, mais par des façons qui sont quand même assez...
qui se traduit d'ailleurs dans les urnes aussi.
Bien sûr, tout à fait. Assez charnel.
Paul Ackermann, votre regard sur ces violences en Allemagne?
Alors en Allemagne, je ne sais pas, mais sur Raphaël Glucksmann, par exemple, je trouve que c'est aussi l'illustration d'une violence du débat politique. C'est-à-dire que Raphaël Glucksmann, il est visé de manière obsessionnelle par la France insoumise depuis quelques semaines, parce que il prend la tête de la gauche, quoi, dans cette élection. Et il l'a dit lui-même, hein, tout ça parce que, en gros, il refuse de qualifier de génocide ce qui se passe à Gaza. Il l'a dit lui-même, il reçoit des tonnes d'insultes antisémites, etc., suite à au fait qu'il est pointé du doigt, en fait. Et ce débat qui est maintenant ultra violent, comme ça, eh ben, ça provoque des gens au passage à l'acte, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi lié à ça, lié à la violence du débat politique.
En fait. Alberto Toscano.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Je rajoute quelque chose par rapport à l'Allemagne, quand même. Cette information que nous n'avions pas encore à décrypter, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour le décrypter, et entre dans un contexte politique allemand de confusion, d'incertitude. Pour ce gouvernement allemand, ces élections sont vraiment, peuvent être vraiment un tournant. Dans cette atmosphère de tension allemande, et il y a vraiment de la place pour la violence. D'ailleurs, il y a un parti qui parle de violence, qui imagine pratiquer la violence, un parti d'extrême droite, l'Alternative für Deutschland, dont un parti qui risque monter à
la question. Un parti extrêmement présent dans cette région de Dresde, justement, dans l'Est de l'Allemagne.
En particulier, dans l'ex-Allemagne de l'Est, comme la ville de Dresde. Donc, on est dans un contexte allemand de tension, de confusion, et pour l'Allemagne, ces élections européennes sont spécialement importantes.
Vibeke Knupfrachlin, votre
Il y a peut-être plus de pas, même pas d'intérêt, mais de passion pour ces élections qu'on veuille le croire. Peut-être qu'effectivement, les gens n'iront pas mettre un bulletin dans l'urne. Ils préfèrent attaquer les politiques. Moi, je crois que ça vient peut-être en partie des réseaux sociaux. Ça paraît peut-être étrange. Mais quand on est derrière son clavier, on a l'impression qu'on peut décider quelque chose. Et si on n'est pas d'accord...
Mais il y a la violence verbale, oui. Et là, on passe à la violence physique.
Si on n'est pas d'accord avec tel homme ou femme politique, eh ben maintenant on va dans la rue et on les violente. C'est quand même assez extraordinaire. On vient d'avoir exactement le même exemple en Norvège, alors qu'on n'est pas, on n'a pas d'élection européenne.
Qu'est-ce qui s'est passé en Norvège ?
Ben, une femme politique, là c'était aussi sur le Moyen-Orient, qui s'est fait agresser.
De cette façon-là, pareil.
Voilà.
D'accord.
Mais il y a eu cette violence aux États-Unis également, avec le Capitol, où il y a eu, entre guillemets,
début 2021, on rappelle bien évidemment l'assaut du Capitol.
Voilà, où il y a eu des citoyens radicalisés, quand même poussés beaucoup par le président de l'époque, Donald Trump, et qui ont violenté non seulement l'institution américaine, quand même de Capitol, mais aussi les policiers et les politiques qui étaient à l'intérieur du bâtiment. Donc,
avec un cas très particulier, puisque vous le disiez, là, c'est carrément un ex-président des États-Unis, la première puissance mondiale, qui appelait ou qui soutenait cette insurrection.
Ce qui est, en un sens, je reviens à ce que je disais au début, ça ne s'arrête pas aux frontières, ça ne s'arrête pas à un continent. C'est malheureusement, cette violence qu'on voit envers les politiques est quelque chose qui... Ça, c'est en hausse, je trouve. On parlait au début de l'émission de est-ce que la violence est en hausse ou en baisse avec les jeunes. En tout cas, envers les politiques, c'est définitivement en hausse.
Les maires en France.
Absolument.
Les maires.
C'est ce que j'allais dire. Il y a eu les maires qui ont été extrêmement pris pour cible ces dernières années. On a vu le gouvernement, les autorités tenter d'apporter des réponses, mais dans les faits, justement, concrètement, Paul Ackermann, est-ce que vous avez le sentiment que les mesures qui peuvent être prises par les différentes autorités peuvent être efficaces ?
Bah, pour l'instant, les mesures, on en a plus entendu sur les ados que sur les agressions de politiques. Hein. C'est-à-dire que là, quand...
Bientôt, on aura des ados politiques.
Voilà, où on enverra en internat les dissidents.
La dernière partie des informés. Dans un instant, on parlera le dernier sujet. En tous les cas, on parlera de la situation au Proche-Orient.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Et parlons à présent, si vous le voulez bien, de la situation au Proche-Orient, avec toujours cet espoir de nouvelles trêves. Une délégation du Hamas est actuellement au Caire, en Égypte, où se déroulent les discussions avec des émissaires de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis. La trêve avec Israël pourrait conduire à une pause de 40 jours dans les frappes sur Gaza et à des échanges d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Écoutez le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, depuis un forum en Arizona, c'était hier.
En ce moment, la meilleure chose qui puisse arriver serait qu'un accord aboutisse pour que le Hamas envisage un cessez-le-feu, la libération des otages, la possibilité de renforcer réellement les systèmes de surveillance dont on a désespérément besoin, et nous attendrons une réponse. Nous attendons de voir si vraiment ils peuvent accepter de répondre oui au cessez-le-feu et à la libération des otages, mais la seule chose qui se dresse actuellement entre la population de Gaza et un cessez-le-feu, c'est le Hamas.
Anthony Blinken, les Américains qui ont mis la pression sur Israël ces dernières semaines et qui mettent cette fois la pression sur le Hamas, c'est la bonne stratégie, Aïcha Goulsert.
C'est l'émotion, j'imagine.
Exactement.
Oui, c'est-à-dire que les Américains jouent un double jeu. Les Américains jouent toujours des doubles jeux, quelle que soit la décennie ou l'espace, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit le Proche-Orient, que ce soit au sujet des Kurdes. Je m'arrête. Ils essayent bien sûr d'apporter cette trêve parce que attention, il y a des élections au mois de novembre aux États-Unis. Là, ça va. Ils sont aussi les Américains en train de dire est-ce que pour Joe Biden, ça va lui coûter les élections, le fait que cette guerre continue, que les États-Unis, je pense, sera toujours du côté d'Israël. C'est comme ça, c'est écrit en noir et blanc. Mais en même temps, il y a une communauté.
Mais les Américains, enfin Joe Biden a été obligé tout de même de contrebalancer.
Contrebalancer en mots, mais pas en actes. C'est-à-dire que les États-Unis continuent à donner de l'argent et des armes aux Israéliens pour que les Israéliens continuent à se protéger. Ce qui me meut aujourd'hui, c'est à l'heure où on parle, aujourd'hui, s'il aurait été en vie, il aurait eu 85 ans, Amos Oz, l'écrivain israélien. Et je lisais ce matin une phrase qu'il a écrite où il dit « Je ne suis pas pro-israélien, je ne suis pas pro-palestinien, je suis pro-paix ». Et donc, peut-être que cette trêve, avec cette date, va aboutir à quelque chose, c'est à voir. Moi, je pense que ni le Hamas doit représenter les Palestiniens et que ni Netanyahou doit représenter les Israéliens. Seulement, à ce moment-là, vraiment, cette trêve peut aboutir à une paix durable, entre guillemets.
Alberto Toscano, oui. Vous avez l'espoir que cette trêve, on y arrive enfin, ça fait des semaines, des mois qu'on en parle depuis la première qui avait eu lieu.
Non, mais c'est vrai, l'enjeu est la paix durable. Donc la discussion aujourd'hui est une discussion quelque part tactique. Oui. Le vrai problème stratégique est que Israël, on peut juger comme on veut la politique d'Israël, mais n'importe quel État au monde, après un choc comme celui du 7 octobre, aurait posé la question fondamentale de sa propre survie et de sa propre sécurité. Et n'importe quel État au monde aurait réagi de façon musclée. Ensuite, Israël a certainement commis des erreurs aussi. Mais le problème est un problème de fond. Et le problème de fond est la paix. Et aujourd'hui, on est au moment où, je crois, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte et bien d'autres pays se posent un problème de perspective d'une Gaza sans Hamas. Parce que la présence d'Hamas à Gaza sera un facteur éternel de déstabilisation.
Si je peux me permettre, mais aussi d'un Israël sans Netanyahou. On est bien d'accord sur cela. C'est-à-dire que ce sont les deux options que je viens de dire qu'on est en train de présenter.
On est bien d'accord. Mais Israël étant une démocratie, ce pas du sans Netanyahou sera décidé sans doute, j'imagine, par les électeurs israéliens, parce qu'après cette crise, il y aura des élections, et finalement, Netanyahou sera envoyé ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on décide et ce qu'on imagine est un accord avec l'Arabie Saoudite, avec les pays arabes, avec les États-Unis, pour une Gaza différente, une Gaza qui peut devenir prospère, à la condition qu'elle ne soit plus dans les mains de Hamas.
Alberto Toscano, on parlait de Benjamin Netanyahou, Vibeke Knoum-Rachlin, on pose souvent la question dans les informés de ce thème. Benjamin Netanyahou a presque intérêt, lui, à ce que la guerre continue parce que ça le maintient au pouvoir. Une fois que ce sera terminé, ça en sera terminé certainement pour lui aussi.
Malheureusement, oui. Et on peut imaginer, et il y en a beaucoup qui le font, que c'est pour ça qu'il a dépassé toutes les limites. Mais Alberto parle beaucoup de Gaza. C'est pas uniquement Gaza le problème, c'est la Palestine en tant que, j'espère un jour, un pays. Et il y a un nouveau facteur aujourd'hui qui est très intéressant, c'est que Israël, pour la première fois, envisage de libérer Marwan Barghouti. C'est un leader palestinien qui est en prison depuis je ne sais pas combien d'années et qui est peut-être un facteur de rassemblement pour les Palestiniens et qui pourrait être leur futur leader. Mais Israël met déjà des conditions, c'est qu'il ne pourrait pas être en Cisjordanie, il faudrait qu'il soit à Gaza justement. Donc ça peut être compliqué.
Paul Ackermann, encore un mot de cette possible trêve. Israël qui menace toujours Rafah, on le sait, d'une offensive terrestre. Si cette offensive était lancée, l'État hébreu finalement n'aurait plus vraiment de moyens de négocier.
Oui, et je crois que même les Américains ont demandé à ne pas la faire, cette offensive. Donc on se demande un peu jusqu'où ce soutien pratique que vous décriviez, qui est vraiment ça, hein, d'envoyer des armes et finalement de pas dire stop, maintenant on arrête, va continuer, parce que là, il n'y a plus que les Américains pour ne pas empêcher. Je crois que toute l'Europe, y compris la France, maintenant, tout le monde est d'accord que c'est aller trop loin. Oui, Rafah, ce serait, est-ce que ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, peut-être, quoi.
Et on va continuer à en parler dans un instant. 20h48, nous parlerons de la situation sur les campus américains et en France, également sur plusieurs sites universitaires.
20h21, les informés, Victor Mattey.
Le conflit entre Israël et le Hamas qui s'invite depuis pas mal de jours déjà dans les campus des grandes universités américaines, en France sur des sites de Sciences Po et puis dans d'autres pays aussi, on y reviendra. Concernant la France, après l'évacuation d'étudiants par des policiers, voilà ce que dit sur France Info Marie Lebec, la ministre des Relations avec le Parlement.
La doctrine du gouvernement, effectivement, c'est de la fermeté, non pas pour empêcher ou museler le débat, mais bien pour permettre à l'ensemble des étudiants d'étudier, de travailler dans des bonnes conditions. Surtout que nous arrivons vers la fin de l'année étudiantine et que les examens doivent se préparer, qu'il faut aussi que les étudiants puissent à la fois réviser et accéder à leur lieu d'examen.
À la fin de l'année étudiantine, Aïcha Goulcert, qu'est-ce que vous en dites, vous qui travaillez d'ailleurs à l'école de journalisme de Sciences Po à Paris? Il faut laisser les étudiants manifester et bloquer ou permettre aux autres d'étudier?
Alors, je m'exprime au nom de Aïcha Goulcert et pas de l'administration de Sciences Po, où je suis juste une simple enseignante. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous essayons, en tant que, je pense, journaliste, enseignant, de préparer une jeunesse à être un peu plus engagée avec ce qui se passe dans le monde et autour, à un petit peu lever les yeux des réseaux sociaux et un petit peu apprendre à avoir une voix. D'un côté, on veut ça de cette jeunesse, de cette génération, et qu'on la critique parce qu'elle ne le fait pas. Et de l'autre côté, on la tabasse, surtout aux États-Unis, on la critique, on la casse, parce qu'elle prend une position dans ce qui se passe dans le monde. Ils habitent dans ce monde. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent de ce monde. Ce monde, quand on ne sera plus là, sera à eux. Mais, ceci dit, je pense que là où ils font une énorme erreur, ces élèves, c'est d'utiliser des mots, ou bien des phrases, ou bien des positions comme « intifada », qui aussi font aussi appel à l'antisémitisme, parce que ce n'est pas l'origine de ce qu'ils y croient. Mais malheureusement, dans la fureur du moment de où on est idéaliste, dans le feu de la passion de vouloir changer le monde, ils se font emporter par des choses qui sont inadmissibles.
Est-ce que vous partagez cette analyse, Alberto Toscano?
Non, mais je la partage. C'est très intéressant ce que Aïcha dit. Vous savez, moi, j'étais à l'université à Sciences Po à Milan en 68. Donc, ça, je connais bien ce type de manifestation. Et malheureusement, aussi des tensions qui ont débordé à mon époque dans une violence qui a laissé des traces en Italie. Mm. Qui, pas dans mon cas, mais qui a laissé dans d'autres cas des traces en termes de terrorisme, des brigades rouges, de tout ça. Donc, je dis aux jeunes, il y a peut-être une génération révolutionnaire précédente. Faites attention.
Mais pour revenir à l'Italie d'aujourd'hui,
pour revenir
Alberto,
à l'Italie d'aujourd'hui, à l'Italie.
Il y a des étudiants qui se mobilisent aussi pour Gaza en Italie.
Bien sûr. Bien sûr.
Et qui ne sont pas évacués par la police.
Des étudiants qui, parfois, disent des choses injustifiées et dangereuses. Parce qu'une chose est dire on se mobilise pour Gaza et pour la paix. Et une chose est dire, on veut empêcher des relations culturelles entre l'université italienne de Naples ou de Milan ou de Turin et l'université israélienne. Ça ne tient pas debout. Ça n'est pas logique. Alors, ce que je me permets de dire aux jeunes d'aujourd'hui qui protestent, ils ont tous les droits du monde de protester. Et parfois, c'est même logique. Mais toujours accepter le dialogue. Refuser la violence et surtout ne pas tomber dans ce piège terrible qui peut être un langage antisémite.
Le débat, pas le blocage, disent les autorités françaises, Vibeke Knoop-Rachlin.
Oui, pour la France, peut-être qu'on en est encore au début, mais aux États-Unis, c'est quand même allé assez loin. Et ces derniers jours, la police new-yorkaise a commencé enfin quand même à répliquer. Et ils disent une chose que je trouve en tout cas personnellement très juste, c'est que quand ils ont commencé à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur des universités, on ne trouve pas des ordinateurs, des blocs et des stylos. On trouve des gaz, des masques à gaz, des casques, des armes, des livres sur le terrorisme. Donc peut-être que c'est allé un petit peu loin. Il faut voir aussi qui finance les universités américaines. Ça, on en a peu parlé. C'est le Qatar, c'est d'autres pays du Moyen-Orient. Quand même, est-ce que ces pays-là n'ont pas une influence? Quand sur un mouvement comme le Hamas, par exemple, et je suis certaine que les étudiants des universités américaines ne sont pas forcément en accord avec les principes du Hamas. Le Hamas, par exemple, est très contre les gays, contre d'autres problèmes. Donc, quand même, il faut réfléchir un peu.
On parlait de l'Europe, on parlait de l'Italie. En Norvège, est-ce qu'il y a des...
En Norvège, il y a eu un peu ce que Alberto disait sur la collaboration avec les universités israéliennes. Là, il y a eu un mouvement. Mais il n'y a pas encore beaucoup de manifs ou de protestations fortes comme aux États-Unis.
Et en Suisse, Paul Ackermann?
Alors, il y a eu des petits mouvements spontanés. Là, il y a un hall de l'Université de Lausanne qui est occupé, mais ça se fait de manière très pacifique et même dans un dialogue permanent avec le rectorat de l'université, ce qui fait que ça donne pas du tout pour l'instant l'impression de ces débordements. D'ailleurs, c'est peut-être ça un des problèmes qu'il y a eu à Sciences Po, c'est que la direction a visiblement été très, très ferme. Il n'y a pas eu de dialogue.
Ferme.
J'y étais vendredi passé, puis j'y étais là à la sortie du grand débat, et il y avait beaucoup d'élèves à la sortie qui disaient qu'ils étaient contre le blocage. On voyait vraiment que c'était une toute petite minorité qui voulait bloquer. Par contre, ils étaient tous déçus par ce débat où ils ont trouvé la direction vraiment très, très maladroite dans sa manière de répondre. D'ailleurs, c'est une direction provisoire, peut-être, voilà, des personnes qui sont pas faites pour ça, je sais pas, mais on sent qu'il n'y a pas... Alors, il y a peut-être une volonté d'apaisement, mais en tout cas pas les moyens qui sont mis. Puis l'autre chose qu'il y a, c'est que tout de suite, alors ça c'est la France, c'est le côté ultra-centralisé, c'est directement le Premier ministre, pour pas dire le Président, qui envoie la police, qui dit on va être ferme. Aux États-Unis, je suppose que c'est un État plus fédéral, plus décentralisé. C'est pas Biden qui va dire on envoie la police. C'est directement donc une sorte de tension et puis d'extrémisme dans la réponse, je trouve, qui met un peu d'huile sur le feu.
Et après, les universitaires, ce sont les lycéens qui appellent d'ailleurs à manifester à partir de lundi, à bloquer leurs établissements. Un tout dernier mot, Vibeke.
Il ne faut pas oublier qu'il y a bientôt les Jeux Olympiques. Alors on a peur.
Ce sera le mot de la
fin. Mais c'est pas une raison pour envoyer la police dans des établissements universitaires, s'il vous plaît.
Je défends pas, je l'explique.
Vous l'avez un peu défendu quand même.
On s'expliquera hors plateau. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir dans Les Informés. Aïcha Goulsert, Vibeke Knoop, Rachline Polakerman et Alberto Toscano. Alberto, tiens, on en profite pour citer, montrer votre dernier livre qui vient de sortir, Camarade Balabanov, sur la vie et les luttes de celle que l'on appelait la grand-mère du socialisme séché, Armand Collin, et ça vient tout juste de sortir. Merci à tous les quatre. Les Informés reviennent demain matin. Très bonne soirée.